Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Il est un peu plus de 11h sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et pas avec n'importe qui puisque c'est Yann Kefelec qui nous accompagne. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour.
Alors, dernier livre paru chez Kalman Levy, ce n'est pas un roman, c'est un récit. Il faut bien le souligner.
Alors soulignons-le.
Soulignons-le. D'ailleurs, vous le soulignez au tout début du livre. Sorte de, dans la préface, une sorte de précaution littéraire, narrative.
C'est plutôt une fausse précaution. C'est plutôt une manière d'ironiser sur cette frontière très difficile à définir entre le récit et le roman. À partir du moment où quelqu'un met en scène ses souvenirs, comme c'est le cas dans mon livre, est-ce que c'est un récit ou est-ce que c'est un roman? Est-ce qu'un souvenir, dans la manière dont il est raconté, n'entre pas, ne relève-t-il pas du genre de la fiction? C'est très difficile à savoir. Donc effectivement, c'est un récit parce que les choses que je raconte dans ce livre ont bel et bien existé.
Et vous vous êtes autorisé quelques libertés, vous écrivez dans la préface. Je me suis permis trois éléments anti-choc hors mémoire, trois figurants absents de ma biographie. La nuit blanche, la neige et l'infirmière Naomi, une agréable compagnie pour moi chaque matin lorsque je prenais la plume sur les coups de 5h30. Vous écrivez au stylo, parce qu'il y en est question des stylos que le frère
J'écris sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour dans la plus vieille papeterie de Chine. J'écris au stylo, mais non pas au stylo plume. Je n'écris plus au stylo plume, mais au stylo à bille encre gel. C'est plus noble que le simple stylo bille, hein. C'est une encre à base d'encre de sèche et ça correspond tout à fait à la glisse de mon écriture sur ce papier chinois. Alors j'aime énormément.
La bille glisse sur le papier comme le voilier, le navire sur la mer.
Elle glisse moins, fort heureusement, elle ne glisse pas aussi bien. Enfin, quelquefois d'ailleurs, le voilier ne glisse pas quand il n'est pas entretenu. Et là, il y a tout de même une petite retenue justement de la bille sur le papier qui est très très légèrement grenue. Et j'aime bien d'ailleurs que le papier ne soit pas trop lisse. C'est là où les Chinois sont très forts en papeterie. C'est vraiment un papier qui se prête à l'écriture, à la trace manuscrite.
Alors Yann Kefelec, j'ai oublié de rappeler, mais je crois que tout le monde s'en rappelle tout de même, vous avez obtenu le prix Goncourt pour Les Noces barbares, c'était en 1985 et c'était votre deuxième roman quand on est si rapidement couronné par un prix prestigieux en France. On est condamné à faire toujours mieux par la suite. C'est pas un peu difficile d'obtenir un prix littéraire national?
Non, qu'est-ce qui est difficile quand on obtient un prix? C'est comme une mue, quoi. C'est comme un serpent qui change, ou un serpent, ou un animal d'ailleurs qui change de peau. Je suis pas en train de dire que les écrivains sont des serpents, surtout quand ils ont le prix Goncourt. Alors une fois qu'on a changé de peau, il faut réapprivoiser sa nouvelle peau, c'est vrai, mais pas forcément dans le sens du faire mieux, ou non, pas du tout. Il faut être égal à soi-même, il faut vouloir faire mieux. Il faut toujours être dans un souci de dépassement, dans l'espoir justement que ce mieux déjà se traduira par du bien. Mais la vie est ce qu'elle est, donc un parcours littéraire c'est aussi un parcours existentiel, donc sur toute la longueur d'une vie on sait très bien qu'il y a des hauts et des bas en littérature. De toute manière, quand on a la passion d'écrire, et tel est mon cas, on y revient à chaque fois avec un enthousiasme décuplé, et peut-être que ce décuplement de l'enthousiasme peut avoir des effets vertueux sur la page chinoise.
Qu'est-ce que le prix Goncourt a changé dans votre vie en 1985?
Ça change tout, le prix Goncourt. C'est le prix littéraire le plus ancien du monde. C'est un prix, il est au moins aussi prestigieux que le prix Nobel, et c'est pas un prix politique, c'est vraiment un prix littéraire. Donc, c'est vrai que l'avoir, c'est une stupéfaction, c'est une déflagration, c'est une métamorphose à tous les niveaux. C'est-à-dire, vos amis changent de comportement à votre égard, votre famille ne vous voit plus de la même manière, votre éditeur lui-même, même s'il a tout fait pour que vous obteniez le prix Goncourt, est un peu sidéré de voir qu'il est arrivé à ses fins, que cet auteur dont il n'attendait finalement pas forcément le maximum à ce moment-là, eh bien, brusquement est catapulté du côté des étoiles. Et soi-même, d'ailleurs, on a énormément de mal à se regarder dans la glace et à se dire « Tiens, j'ai eu le prix Goncourt, je viens d'avoir le prix Goncourt ce matin. Et je l'ai jusqu'à la fin de mes jours maintenant, parce qu'on n'est pas un ancien prix Goncourt. Vous voyez, encore 35 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, je ne sais pas, vous me repérez encore à travers cette image d'un écrivain. »
Je me rappelle surtout des Noces barbares que j'ai lues, j'étais très jeune. Je crois que j'avais 22 ou 24 ans.
Vous étiez extrêmement
jeune. Je me rappelle de la lecture des Noces barbares, l'enfance martyrisée.
Alors ça aussi c'est important, c'est d'avoir, je dis ça, je pense à mes confrères écrivains qui auront le prix Goncourt. Il faut avoir le prix Goncourt quand on peut l'avoir, évidemment. C'est mieux d'avoir pour le meilleur de ses livres, ou de l'avoir pour un bon livre, pour un très bon livre. C'est-à-dire un livre qui n'a pas à rougir du prix qu'il obtient. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le public, l'ampleur du public est presque sans limite. Parce que si le livre est bon et s'il est porté par la publicité d'un prix Goncourt, il fait le tour du monde, ce qui a été le cas, et ce qui est toujours d'ailleurs le cas des Noces barbares. Donc pour ça, c'est évidemment un défi pour l'auteur de s'égaler à ce texte comme ça qui a eu la chance d'obtenir cette belle médaille.
Une belle médaille en effet que ce prix Goncourt obtenu pour les Noces barbares, que l'on peut encourager chacune et chacun à relire. Si vous le voulez bien, Yann Kefele, qu'on marque une première pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio Ne, et on vous laisse tout de suite en compagnie de Tracy Chapman.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. At the right time, you'll be mine.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour sur les banquettes de Wagon Livre avec notre invité aujourd'hui, Yann Kefelec, pour un récit disponible en librairie aux éditions Kalman-Lévy. Demain est une autre nuit, une émission que nous avons enregistrée le 24 octobre dernier au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, place d'Arcy, alors que Yann Kefelec était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Alors arrêtons-nous à votre dernier texte. Demain est une autre nuit, donc c'est un récit. Et évidemment, le narrateur, c'est vous. Le frère que vous allez voir à l'hôpital, il existe réellement.
Bien sûr.
Le père, il existe. Votre père, c'était Henri Kefelec, qui était aussi un romancier. Et puis, il y est question de la disparition de votre maman. Il y est question de Boué-Boué, c'est Hervé,
qui est un mathématicien. Mon frère aîné, tout à fait.
La sœur, j'ai oublié son petit surnom, c'est...
Anne, dite Tita.
Grande pianiste,
ma sœur. Oui, elle fait le tour du monde, elle aussi.
Alors, ils sont plutôt absents, Boué-Boué et la sœur pianiste.
J'ai déjà écrit sur ma sœur et sur mon frère Hervé. Alors, pourquoi j'écris sur ma famille? Ce n'est pas du tout une espèce de régal narcissique que je cherche à partager avec des lecteurs. C'est beaucoup plus parce que ma famille me fait l'effet d'un vivier romanesque inépuisable, mais pas trop inépuisable non plus, parce que j'ai décidé maintenant de ne plus écrire sur ma famille. J'ai un peu fait le tour de la famille. J'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de mes frères et sœurs. Je vais revenir, je vais quitter le registre du récit, même si pour moi il est enchanté par de l'écriture qui le fait s'apparenter au roman, pour retourner dans celui de la fiction.
Et comment ont réagi votre sœur et vos frères, le fait que vous en fassiez des personnages de papier, mais qui ont tout de même une véritable existence, qui ont eu une existence et qui l'ont encore dans votre vie?
Quand on écrit sur sa famille, ça n'est jamais apprécié par la famille, même si vous dites du bien des gens, même si c'est un portrait flatteur. Je pense que c'est toujours très perturbant de se voir regardé par un frère qui est aussi un écrivain, et qui se permet de donner de vous une certaine vision qui correspond rarement à l'idée qu'on se fait de soi-même. Donc finalement, ça se traduit par une absence de réaction. Et pour moi, c'est assez positif, d'ailleurs, une absence de réaction, parce que je ne veux absolument pas être désobligeant lorsque j'écris sur les autres. Lorsqu'il s'agit de personnages qui n'existent pas, j'essaye toujours d'humaniser ma relation avec le personnage, avec l'être humain, comme ça dans mes livres. Je ne veux pas du tout faire de l'homme quelque chose de noir et d'irrécupérable, et certainement pas lorsqu'il s'agit de mes frères et sœurs. Ils avaient leurs qualités et leurs défauts. Moi-même, j'ai mes qualités et mes défauts. Ils pourraient d'ailleurs très bien écrire sur moi-même, et je pense que je ne prends sur moi. Et je pense que, comme eux, je ne l'apprécierai pas forcément. Donc, j'ai été extrêmement prudent dans ma façon de peser le pour et le contre des uns et des autres. En plus, je n'avais pas une relation morale avec eux. Ce qui m'intéresse lorsque j'écris, c'est la force romanesque des histoires. Et c'est plutôt ça qui m'a attiré avec « Demain est une autre nuit », c'est que j'avais une histoire à raconter. Une histoire avec des images, une histoire avec des scènes, avec des enchaînements, avec une forme de suspens. Et ce suspens, c'est presque un ressort littéraire. Donc j'aurais eu tort de me priver de le mettre en scène avec des mots.
Alors posons un petit peu le décor. En fin de compte, vous recevez un texto de votre jeune frère qui a 4 ans de moins que vous.
Tout à fait.
Et ce texto, alors je le résume parce que c'est un peu le teasing de la quatrième de couverture, c'est « Viens, c'est grave, il a été hospitalisé ». Il a subi 3h30 d'opération, il est sous morphine et il appelle au secours ce grand frère avec lequel il y a eu un très long temps d'absence, une brouille, une incompréhension, quelque chose qui les a séparés.
Une situation bretonne, on va dire.
Une situation bretonne.
C'est-à-dire, ça n'est pas véritablement... Il peut y avoir des brouilles en Bretagne. Mais là, il ne s'agit pas d'une brouille, il s'agit davantage, oui, pas d'incompréhension non plus, mais de silence. Le silence s'est installé entre eux pendant...
Ah, dans votre roman, vous écrivez 39 ans, pardonnez-moi Yann Kefelec, vous écrivez 39 ans d'incompréhension mutuelle.
Oui, incompréhension, silence, mais pas brouille. Je ne pense pas avoir dit à aucun moment, je suis sûr même que je
n'ai
jamais...
Non, incompréhension, vous avez raison, c'est les termes que j'ai trouvés dans votre texte.
Incompréhension due, effectivement, à quelque chose. Il y a eu un différent, il y a eu une séparation entre eux. Ils formaient une sorte de couple fraternel, s'appuyant sur la douleur de la perte d'une mère, comme ça qu'ils avaient chéri, un deuil comme ça qui les a rapprochés, dont ils ne voulaient pas s'éloigner. Donc pas question pour eux de faire leur deuil, hein, leur mère restait présente. Et pour assurer la présence de leur mère, eh bien, ils sont devenus, c'est ça, un couple fraternel. Ils ont développé une sorte d'amitié, d'intimité dans la fraternité, et ils s'imaginaient inséparables à la vie, à la mort, jusqu'au jour où le grand frère, c'est moi le grand frère. Mais j'en parle comme d'un personnage, parce que si j'arrive à écrire sur moi maintenant, avec le recul, c'est parce que cette mémoire-là me fait l'effet d'un personnage. J'ai l'impression d'être un personnage de roman lorsque j'écris ce récit de moi-même. Donc un beau jour, ce grand frère est tombé amoureux, a fait sa vie autrement, et il s'est séparé de son petit frère. Et c'est à ce moment-là que l'incompréhension s'est installée, qu'ils ne se sont plus parlé. Et le grand frère, lorsqu'il retourne le voir à l'hôpital, tout de même, il a mauvaise conscience. Il se demande, peut-être pour la première fois, s'il ne l'a pas trahi.
Alors, en fait, ce grand frère, il est malmené par ce jeune frère qui est, qui est sauvé, mais qui est encore sous morphine, et qui, semble-t-il, veut régler des comptes, notamment avec la mémoire familiale. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller un peu dans la mémoire familiale?
Ah, mais complètement. Mais ça aussi, j'adore, moi, parler de ma famille. Ma famille, elle est complètement dingue. Toutes les familles, à mon avis, sont complètement dingues. Il y a des personnages dans les familles. Donc ça, moi, je voulais retracer certains épisodes familiaux croustillants dans le cadre de ce récit. Et je l'ai fait, bien sûr. Alors, peut-on parler d'un règlement de compte? Le petit frère veut savoir la vérité.
Il est parfois un petit peu féroce, un petit peu piquant, agressif.
Oui, ça, je l'ai fait exprès. C'est-à-dire, mon frère n'est pas aussi féroce que ça. Mais je voulais justement qu'il soit un peu féroce envers moi. C'était une manière de m'excuser d'avoir écrit sur lui, sans lui demander son autorisation. Et en même temps, donc, s'il n'est pas féroce, je pense que je me règle des comptes à moi-même par sa voix. C'est-à-dire, je suis... Et je ne regrette pas de l'avoir fait. S'il y a quelqu'un qui devrait être fâché du sort qui lui est réservé par l'écriture dans ce récit, finalement, c'est l'auteur. Donc c'est moi. Et ça m'a bien amusé. Je n'ai pas voulu charger ma barque non plus, mais tout de même, j'ai voulu me dire les choses comme je pense qu'elles ont eu lieu.
Alors forcément, quand on se plonge avec les deux frères dans la famille Kefelec, bien sûr, on revient à la Bretagne, on revient au père romancier. Il y a la figure quand même de la maman, cette maman qui est montée au ciel, comme on dit en Bretagne, et aussi une éducation tout de même catholique.
Une éducation, très imprégnée de catholicisme, une chrétienté obsédante avec tout ce qu'elle peut avoir d'angoissant, d'exaltant et d'angoissant. C'est-à-dire le mal est constamment présent, la notion de péché est quotidienne. Est-ce qu'on a eu tort? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on est dans la bonne action, dans la mauvaise action? Est-ce qu'on doit avoir honte de soi, etc. C'est terrible, la relation que développe, qu'oblige le catholicisme à développer avec soi-même. Donc je suis revenu aussi sur cette éducation catholique qui nous a fait à la fois du bien et du mal. Donc,
vous l'avez rejeté, cette éducation catholique?
Je ne rejette pas les valeurs de la chrétienté, qui sont, à mon avis, les plus belles qui puissent être. Hein. Aimez-vous les uns les autres. On ne peut pas imaginer une devise plus exaltante pour l'être humain et plus difficile à appliquer en même temps. Donc ça, certainement pas, je ne le rejette pas. Mais tout de même, cette idée qu'on a tort, cette accusation comme ça par les aînés qui n'hésitent pas à vous mettre des bons ou des mauvais points, à vous envoyer vous confesser, c'est... Tout cela est extrêmement, peut-être très angoissant pour une jeune sensibilité qui se contente comme ça d'aller vers la vie de manière honnête, sincère, et sans avoir l'impression qu'à chaque pas, elle va basculer dans le mal, en enfer ou au ciel. Enfin, ça, c'est terrible tout de même.
Mais il y avait la culture celtique, l'ankou, ça existait dans votre famille ou c'était vraiment mis de côté?
Non, pas du tout. C'était pas présent de manière folklorique. Hein. Mais mon père et ma famille, fortement bretonne, imprégnés de tout le merveilleux celtique, évidemment puiser aussi dans ce fond, dans ce merveilleux arthurien, comme ça, pour éduquer les enfants. C'est-à-dire, on avait le merveilleux aussi était constamment présent, et le merveilleux, comme vous dites, le merveilleux breton, le merveilleux celtique, c'est-à-dire il y a de la présence dans l'invisible, l'irrationnel fait partie de la vie, donc une certaine forme de, oui, l'irrationnel, d'illogique, on pourrait même dire de folie. On n'avait pas du tout peur, comme ça, d'être... Il y a les choses qu'on dit, puis il y a les choses qui ne se laissent pas dire, mais qui sont réellement présentes. Et ça, moi, j'aime énormément ça aussi pour ma façon d'écrire. C'est cette présence des choses qu'on ne voit pas, constamment.
Est-ce vraiment vous, jeune homme de 21 ans qui recevait le terrible coup de téléphone de l'hôpital annonçant la mort de votre maman?
Ah, bien sûr, oui, je reviens de pension. Ça, c'est moi, ce coup de téléphone est destiné à mon père. Mais à un moment, justement, ça, c'est peut-être aussi de la chrétienté. On n'ose pas mettre en doute la présence de la mère, on n'ose pas faire douter les enfants de la présence de leur mère, donc on ne leur dit pas quand elle est malade, quand elle est en souffrance.
Parce qu'on vous a caché que votre maman avait un cancer, en fait.
Bien sûr, ah ben complètement, oui. Je ne pense pas que j'ai jamais entendu mon père prononcer le mot cancer, même après la mort de ma mère. Je l'ai su par les amis, je l'ai su de mille et une manières, mais pas par sa bouche à lui. Mon père ne m'a pas dit non plus que j'avais perdu ma mère, à aucun moment. Puisque j'ai reçu ce coup de fil de l'hôpital en pleine nuit, enfin c'est pas moi qui l'ai reçu, l'hôpital pensait avoir au bout du fil mon père. Et c'est moi qui ai décroché. Donc on m'a appelé Monsieur Kefelec, j'ai répondu oui. Et à ce moment-là, on m'a annoncé, en m'apprenant la mort de ma mère, on m'apprenait en même temps qu'elle était malade. On m'apprenait doublement qu'elle était malade et que je l'avais perdue. Mon père m'a pris le téléphone des mains à ce moment-là. Assez furieux, évidemment, que j'ai intercepté ce coup de téléphone, bien malgré moi. Et ensuite, il ne m'a plus... Voilà, ensuite, les choses se sont enchaînées, mais il ne m'a jamais dit les yeux dans les yeux. Tu as perdu ta maman, il s'est passé ça. Enfin, jamais.
Mais justement, avec le petit frère, la mort de la maman a fait que vous vous êtes beaucoup rapprochés.
Ça vous a... Oui. Nous sommes devenus amis à ce moment-là. Nous étions frères. On n'est pas obligé d'aimer follement son frère. Quelquefois, on peut avoir des rapports difficiles avec son frère, même si on l'aime bien, parce qu'on le voit tous les jours. Mais là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde.
Et... Alors, véritable complicité. Et puis, il y a aussi des passions communes. Le bateau, la voile, le tennis aussi.
Tout à fait, oui, ce bateau, ça, la présence de la mer, c'est aussi la présence de la mer, la présence de l'océan. Alors sans vouloir entrer comme ça dans une interprétation freudienne des choses, je pense que si nous aimons tellement la mer, tellement l'océan à ce moment-là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'amniotique dans cette relation avec l'élément océanique dont nous ne parvenons pas à nous éloigner. Nous sommes constamment au bord de la mer. À ce moment-là, nous retournons toute l'année, comme ça, nous allons à la mer, nous construisons un bateau, nous voulons faire le tour du monde sur un voilier. Et ça aussi, ça justifie ce sentiment de trahison que peut avoir le grand frère lorsqu'il laisse son petit frère seul, en tête à tête avec l'océan, et le prive de cet immense voyage initiatique vers une mer qui n'existe plus.
Yann Kefelec, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Demain est une autre nuit », c'est un récit disponible aux éditions Kalman-Lévy. On marque tout de suite dans Wagon Livre une nouvelle pause musicale. Le jour s'est levé, c'est Téléphone, et on se retrouve juste après, bien sûr, avec notre invité Yann Kefelec.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui passe s'en aller. Mmh. comme le jour avançait. En moi, je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé, tout est si coloré. Qu'ai-je donc à donner que la nuit ne m'a soufflé? Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Et qu'il est déjà tard, déjà tard, mais pas trop tard. À toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie n'est ta journée que si la mort.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous prenez cette émission en cours de route, eh bien c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yann Kefelec. Yann Kefelec, que l'on connaît bien sûr, notamment parce qu'il a écrit de nombreux ouvrages, mais aussi et surtout parce qu'il a reçu le prix Goncourt en 1985 pour Les Noces Barbares. Il est aujourd'hui devant le micro de votre émission littéraire sur Radion pour un récit intitulé « Demain ». Est une autre nuit, et c'est un ouvrage disponible aux éditions Calman Lévy. Alors, il y a un thème qui est particulièrement intéressant et que j'avais retrouvé chez Jean-Marie Laclaftine dans son roman Une amie de la famille, où il raconte la mort accidentelle de sa jeune sœur, ce qui a été un drame dans la famille Laclaftine. Et Jean-Marie Laclaftine dit que à la mort de sa sœur, ça a été pour lui une deuxième naissance. Et vous, dans votre récit, Yann Kefelec, vous éprouvez la même chose. C'est-à-dire qu'il y a votre véritable naissance. Si je reprends votre date de naissance, si vous me le permettez, le 4 septembre 1949. Et donc le petit frère, lui, il arrive 5 ans plus tard, hein, le 24 septembre 1954. C'est bien cela. Et cette seconde naissance, c'est celle, ça a été la vôtre, liée à la disparition de votre maman montée au ciel.
C'est mon petit frère qui dit cela, qu'il est né deux fois, le jour où il est né et le jour où nous avons perdu notre maman. Alors peut-être que j'ai plagié Jean-Marie Lacklaftine, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas lu son.
Non, mais c'était un thème qui c'était très surprenant. D'ailleurs.
Il faut croire que c'est assez naturel à ceux qui perdent un proche. Ils ont l'impression que la vie recommence. À la fois, la vie s'achève et la vie recommence. Donc, ça a été d'abord un deuil extrêmement aigu et insupportable et insoutenable, avec l'idée que même si la vie recommence, elle est gâchée, quelque chose, on a quitté le paradis jusqu'au jour où ce deuil qui vous perd devient un deuil vital, devient un deuil qui au contraire vous aide à vivre, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est là d'où la présence de l'invisible, cette présence très bretonne, comme ça des absents dans la vie quotidienne. Ma mère, elle fait partie de ma vie quotidienne, hein. Je l'ai perdue mais elle est là.
Alors, on sait que vous avez écrit un dictionnaire amoureux de la Bretagne, vous avez écrit aussi un dictionnaire amoureux de la mer aux éditions Plomb, dans cette formidable collection qu'on picore et qu'on peut lire avec beaucoup de plaisir. Alors vous parlez de la baleine, et c'est intéressant cette métaphore de la baleine. Alors vous vous rappelez Jonas dans le ventre de la baleine, et vous vous rappelez aussi que vous aviez envoyé une lettre à votre maman, vraisemblablement une lettre truffée de fautes d'orthographe, et qu'elle vous avait répondu en écrivant elle aussi de manière très phonétique, en se vengeant et en se moquant affectueusement de vous, sans doute, mais à mon avis outrée par l'orthographe déficiente de son fiston.
Oui, c'était l'époque où lorsqu'on s'éloignait de son milieu familial, il fallait absolument écrire. Pour deux raisons. D'abord, parce que les téléphones portables n'existaient pas, pour donner des nouvelles, pour faire savoir qu'on était en bon état, en bonne santé, que tout se passait bien. Et ensuite, parce que un être humain, l'éducation passe par l'écriture. Donc il fallait prouver qu'on savait tourner une phrase, aborder une lettre correctement, dire au revoir correctement dans une lettre, avec un minimum de fautes d'orthographe. Et comme je n'avais pas envie d'écrire cette fois-là, eh bien j'avais fait mon teigneux. Donc j'avais écrit en gavant, en saturant mon texte de fautes d'orthographe.
Ah, vous aviez fait un peu exprès?
Mais j'avais fait totalement. Il y avait des fautes que je n'avais pas fait exprès de commettre, et puis il y avait celles que j'avais fait exprès de commettre. Ma mère ne s'y était pas trompée, et elle avait considéré ça comme une insolence, ça lui avait fait de la peine. Et en retour, elle m'avait fait de la peine en faisant exactement la même chose. Elle, dont l'orthographe était irréprochable. Et effectivement, elle m'avait fait énormément de peine. J'avais été extrêmement blessé, déconcerté par cette courte missive de sa part. Et j'avais compris, c'était une excellente leçon, parce que j'avais compris quelle peine j'avais pu lui infliger de mon côté.
Et pourquoi, dans cette lettre, dans la réponse de votre maman, pourquoi vous traite-t-elle de mon petit Jonas? Et en plus, elle l'écrit J-A-U-N-A-2-S-E. Et j'avoue, la première fois que j'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Jonas? Et après, j'ai compris, effectivement. Pourquoi vous appelle-t-elle mon petit Jonas?
Il y a un double sens. Il y a un double sens, c'est parce que j'avais fait mon mauvais garçon. Et quand on dit que quelqu'un, autrefois, on disait que quelqu'un était béjaune, la couleur jaune était associée à l'idée d'hypocrisie chez quelqu'un. Quand rire jaune, ça veut... Voilà, c'était qu'on avait quelque chose à cacher, qu'on n'était pas à l'aise avec une situation. Donc, à sa faute d'orthographe, c'est à la fois cette allusion à Jonas, il y a du jaune dedans, et il y a ici Jonas, ce personnage du traître qui est Jonas lorsqu'il entre dans la baleine, parce qu'il n'a pas respecté la parole de son dieu, parce qu'il s'est enfui. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Jonas. Ma mère m'en a parlé ensuite en me racontant et en me faisant la belle lecture de l'histoire de Jonas.
Alors, sur les baleines, vous avez cette phrase, page 48 dans votre récit. « C'est la famille, ta baleine à toi, elle t'a mangé tout cru. » C'est votre petit frère qui dit cela à son grand frère. « C'est la famille, ta baleine à toi, elle t'a mangé tout cru. » Est-ce que ce récit montre finalement un peu famille, je vouais, que quand bien même on se croit dans une famille aimante, on a peut-être plus tard à l'âge adulte, forme de rejet mesuré de la famille. Je vais peut-être trop loin, là.
Rejet mesuré, non, n'avez pas trop loin. Moi, c'est pas, je suis pas dans le rejet du tout. Hein. Je ne suis pas dans la revendication, ni encore une fois dans le règlement de compte. J'aime bien avoir eu la famille que j'ai eue. Je pense qu'il est indispensable d'avoir une famille. Et plus cette famille est nombreuse, finalement, plus on a des chances de s'y faire une place. En même temps, c'est à la fois un milieu constructeur, évidemment un milieu générateur, la famille, mais c'est aussi un milieu délétère. Donc il faut faire... il faut arriver à trouver sa force et du sens au rôle de la famille dans sa vie, tout en sachant très très bien que l'on n'est pas toujours bien vu dans sa famille, qu'on peut vous faire un mal fou. Moi, j'étais le troisième de la fratrie, donc le cadet, c'est la pire des places, et c'est vrai qu'on n'est pas cadet dans une fratrie sans y laisser des plumes. Hein. Mon frère aîné, lui, avait la préférence de mon père, qui de manière assez ancienne croyait à la domination de l'enfant qui naît le premier, de l'aîné. En plus, c'était un fils, donc il avait une nette préférence pour son fils. Je crois que dans toutes les familles, que tous les parents en sont là d'ailleurs, ils ont une préférence pour un de leurs enfants. Généralement, ils disent que c'est pas vrai, ils disent qu'ils les aiment tous sur un pied d'égalité, ou bien qu'il y a certains qui disent « oui, je préfère un tel, parce que voilà, pour telle ou telle raison ». Mais généralement, ils font semblant comme ça d'aimer tout le monde de la même manière. Alors, l'enfant sait très très bien quand il n'est pas aimé, ou mal aimé, ou moins aimé par l'un de ses parents. Moi, je sais très bien que mon père ne m'aimait pas. Je n'en veux pas. Non, il ne m'aimait pas. Mais je n'en veux pas du tout, d'ailleurs.
Pourquoi vous dites que mon père ne m'aimait pas ?
Mais parce qu'il il me le disait, pour ainsi dire. Oui, moi, quand il en avait assez de me voir à table, je devais quitter la table. Il me disait que j'étais assez vu. Enfin, il me disait que tu t'es trompé de famille. C'était... Non, c'était très clair. Il partait en vacances avec mon frère aîné chaque année. Il partait un mois dans l'île de Hédic.
Avec
Bouéboué, oui. Donc,
Hervé,
c'était une espèce de... Mon père considérait son fils aîné comme la réincarnation de son père à lui qu'il avait perdu à Verdun. Donc il trouvait que mon frère aîné avait toutes les qualités d'un père qu'il n'avait pas connu. Donc c'était assez lourd à porter aussi pour mon frère aîné. Mais malgré tout, mon père lui offrait des livres en permanence, lui offrait des disques, l'emmenait au match de foot, l'emmenait au concert, l'emmenait en vacances, mais c'était comme un couple. Hein. Il dormait avec mon frère aîné, puis nous envoyait des cartes postales depuis l'île de Hédic. Donc c'est vous dire si moi, jamais je ne suis parti en vacances seul avec mon père, nulle part.
Alors la complicité entre votre petit frère, Tanguy, puisque c'est son prénom, et donc vous, Yann, c'était la même complicité que la complicité de votre père avec Bouéboué ?
Peut-être pas exactement. Mais en effet, cette complicité, cette amitié entre mon petit frère et moi trouve son explication dans le fait que mon père, faisait bord à part avec son fils aîné.
En tout cas, la famille est très présente et les souvenirs familiaux sont très présents, effectivement, dans votre dernier récit, Yann Kefelec, dont je rappelle le titre, « Demain est une autre nuit », toujours disponible en librairie aux éditions Calman Lévy. Puis je rappellerai que la bande qui entoure votre texte isole cette phrase, c'est la famille Frangin qui nous a rendus fous. On marque une dernière pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio. Et puis bien sûr, sachez que si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver via Internet sur notre site d'archives en pianotant www.yannickpetit.com. FR. Tout de suite, c'est Lola Lelanne pour Lola à l'eau. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous sur Radio. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, l'écrivain Yann Kefelec.
Je suis mon étoile mal lunée. C'est l'urgence qui m'appelle. Aussitôt les degrés s'envolent au fond de mes prunelles. Quand l'image fait la loi, en apnée je l'évite.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Quand on parle des Kéfélec, vous parlez aussi, dans votre récit, vous parlez de l'Aber Hildut. Je l'ai bien dit ?
Ah, pas mal. L'Aber Hildut. Il faut bien prononcer le T, enfin, Hildut.
Alors, c'est le bercail finistérien des Kéfélec. Donc, c'est au nord de Brest, pour situer.
Oui.
C'est bien cela.
Tout
je
à fait. Non, non, c'est parfait, c'est parfait.
Et vous dites que c'est le premier port goémonier d'Europe. Et alors, vous parlez de la cueillette de ces algues. Et vous dites qu'à une époque, ça se faisait à la faux. C'était encore assez respectueux du milieu. Alors qu'aujourd'hui, vous parlez des merveilles d'une technologie, mais des prédatrices, en fait. Alors ça aussi, ça vous inquiète, l'état de santé des océans.
Oui, le premier port goémonier d'Europe, je souris en disant cela. Donc effectivement, c'est assez flatteur d'être le premier port goémonier d'Europe. Mais à quel prix ? C'est-à-dire, en effet, on massacre les fonds marins. Autrefois, lorsqu'on allait aller à la pêche au caillou, à la pêche à pied, et qu'on retournait un galet, il fallait remettre le galet dans son trou d'origine. Ça,
je l'ai lu dans votre dictionnaire amoureux de la mer. Effectivement, vous dites que le galet retourné doit être replacé dans son trou d'origine. C'est mère nature qui l'exige. Voilà ce que vous écrivez.
Ah, mais elle l'exige parce que chaque galet dans la place qu'il occupe a sécrété une biosphère miniature. Donc on détruit cette biosphère en détruisant l'ordre des choses, en considérant que c'est parfaitement secondaire de retourner un galet, de ne pas le retourner ensuite. Alors que là ces gens qui vont à la cueillette des goémons, soit avec des scoubidou, soit avec des espèces de peignes mécaniques qui arrachent galets et racines des lamineurs au fond de l'eau, ces gens-là, ils se comportent comme des tueurs d'écologie. Et évidemment que les fonds marins en souffrent, la qualité de la mer en souffre, la faune est exterminée, et la flore également. Donc c'est terrible. Quant à l'état de la mer, alors là, de la mer en général, puisque vous y avez fait allusion, là, on est très très mal barré, comme disent les jeunes. Hein. On ne sait absolument pas d'ailleurs comment revenir sur cet état de choses. On n'a même pas les moyens, on n'a ni les moyens techniques, ni la vraie volonté de le faire, ni le début d'une solution.
Alors vous parlez aussi, là je l'ai pioché, c'est dans le dictionnaire amoureux de la mer, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'évocation de cet oncle, l'oncle André, et le port de Kervali. Et notamment, bon, là, vous aviez fait une promesse à cet oncle.
J'avais promis de devenir marin. Ça, vous avez lu ça dans le dictionnaire Amour de la mer, j'imagine. Je lui avais promis de devenir marin, contrairement à lui, qui, à une époque où il pensait devenir marin, il est devenu planteur de thé au Vietnam, où il s'est enrichi d'ailleurs. C'est devenu une espèce de milliardaire du thé et du poivre. Un homme qu'on ne voyait jamais, mais lui aussi, un personnage romanesque ahurissant, qui nous envoyait des pots de tigre ou des mues de serpents pitons de 7 mètres de long pendant l'été. Ça nous arrivait par la Cernam à la Béryldut, c'était ahurissant. Enfin, c'était... Et ma tante Jeanne, qui était dans la souffrance de ne plus voir son fils, tricotait à la laine grise la tête du serpent décapité. Tête interminable, parce qu'elle avait l'impression que si elle terminait la tête du serpent, ça voudrait dire que son fils ne reviendrait pas. Enfin, tout ça, c'était des ambiances très singulières, imprégnées à la fois d'une Indochine qu'on ne voyait pas et puis d'une superstition bretonne palpable. Excusez-moi, je me racle la gorge. Donc cet oncle n'est jamais devenu marin, et je lui avais promis de devenir marin, et si je devenais marin, j'aurais ces bateaux sur lesquels il ne naviguait plus et qui pourrissaient, qui dépérissaient dans la rivière de la Béryldut, la rivière de la Bère. Mais finalement, j'ai fait comme lui, j'ai cru que j'allais devenir marin, je devais faire ce tour du monde en voilier avec mon petit frère. Et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai raté mon rendez-vous avec mon oncle, avec mon petit frère et avec l'océan, même si je l'ai traversé plusieurs fois.
Et alors ce pauvre oncle André meurt de manière stupide, en fait, une glissade dans l'escalier.
C'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est l'absurdité des choses. C'est magnifique sur un plan romanesque. Cet homme comme ça qui s'est battu contre des tigres, il l'a fait, c'était un homme courageux physiquement, contre des chiens sauvages, qui avait une propriété en temps de guerre au Vietnam dans les montagnes anamitiques qui l'obligeait à être armé en permanence, avec un boy qui veillait sur lui, avec des voleurs qui venaient l'attaquer dans sa... C'était un sacré baroudeur. Lorsque les Américains quittent le Vietnam, que lui doit à son tour quitter le Vietnam et regagner son manoir de Kervali, finalement c'est en montant son escalier, il glisse avec l'une de ses vieilles pantoufles et son crâne va exploser sur la boule de cristal de la rampe de l'escalier. C'est ahurissant de mourir comme ça.
Et de lui, vous n'avez rien hérité. Finalement, vous expliquez que tout est parti à la benne à ordure. C'est terrible.
Là, ça devient un tout petit peu privé. Là, ça devient, c'est très mystérieux. La non-suite testamentaire de sa disparition nous a tous laissés perplexes, mes frères et sœurs et moi.
Vous avez parlé de tante Jeanne. Tante Jeanne, elle apparaît dans le récit.
Bien sûr.
Souvenez autour de tante Jeanne. Alors, c'est une femme. Dans votre récit, vous dites que c'est une femme irréelle. Pourtant, elle a clairement existé. Moi, ce qui m'a fait le plus sourire, alors non seulement elle est extrêmement brillante, mais elle est un peu barrée quand même.
Elle est bretonne.
Ah bon ?
Elle est bretonne. Elle est à la fois les pieds sur terre, elle est en plein ciel, elle est dans une sorte de rêve. Le breton, il n'est jamais. Ce qui le distingue des autres, c'est qu'il n'est jamais tout à fait là où on croit qu'il est. Alors on lui parle, par exemple, je vous parle en ce moment, mais je pense à des tas de choses. Et ça, c'est caractéristique du tempérament breton. Et c'était particulièrement fort chez ma tante Jeanne, qui était une personne dans la lune. Mais je le raconte dans le livre, lorsque mon père est nommé officier de la Légion d'honneur, elle vient au cocktail en ayant oublié de mettre sa jupe, une femme quand même qui doit avoir 70 ans à ce moment-là. Donc évidemment, ma mère est absolument consternée. C'est un tableau invraisemblable, si vous voulez, mais ça définit cette tante qui, au demeurant, était une grande philosophe, une intellectuelle comme ça de très haut niveau.
Et alors, elle avait vraiment, sur ce que vous expliquez, qu'elle conduisait une deux chevaux, et moi ça m'a beaucoup fait rire, elle avait deux porte-clés, un crucifix et un phallus. C'est authentique ça, ou
oui,
c'est pour nous faire rire dans le récit?
Non, c'est authentique. Mais je pense qu'elle avait une vie intérieure beaucoup plus étrange qu'on ne l'imaginait. On la prenait pour une sorte de grenouille de bénitier, qu'elle était aussi. Elle n'avait pas de vie privée affichée. C'était vraiment la vieille fille qui allait à la messe. Et en même temps, elle avait ses deux porte-clés et quand même une espèce de besoin irrépressible d'aller se faire masser par des ostéopathes. Donc comme si elle prenait quand même, et d'ailleurs tant mieux, elle prenait un véritable plaisir comme ça à voir son corps entre les mains de ses jeunes masseurs. Enfin, c'est C'est assez merveilleux de compenser les désavantages de la vie de cette manière-là.
Alors, il lui est arrivé une sale aventure, puisqu'en fait, elle a été agressée. Elle s'est retrouvée saucissonnée, ligotée à l'arrière de sa voiture. Et alors, il y a ce passage où une petite fille qui cueille des chanterelles, elle est avec monsieur le curé, et donc elle voit la tante Jeanne ligotée à l'arrière de sa voiture. Et elle dit « Venez voir, monsieur l'abbé, j'ai trouvé un singe ».
Oui, c'est vrai.
C'est authentique, ça.
C'est authentique, oui, bien sûr, c'est authentique. C'est elle qui l'a raconté à mon père lorsqu'il est descendu la voir à l'hôpital de Montpellier. Elle n'était pas belle. On ne peut pas dire qu'elle était laide, d'ailleurs. Mais elle n'était pas belle. Quand on se disait, tiens, on se disait, voilà, cette personne n'est pas belle. Et pourtant, elle n'avait rien d'extraordinairement mal formé. Mais elle était comme ça. Et c'est vrai, elle ne croyait pas au mal chez l'être humain. Elle pensait que chez tout être humain, il y a quelque chose de bon et qu'il lui appartenait de révéler cette bonté chez les individus. Donc quand elle ramasse cet autostoppeur qui visiblement est un malfaiteur et qu'il commence à la braquer et qu'elle, sans vouloir le sermonner, mais lui fait comprendre qu'il est bien meilleur que ce qu'il croit être, eh bien ça tourne très mal.
Bien sûr, les deux frères, je reviens au face-à-face, les retrouvailles entre les deux frères dans la chambre d'une clinique privée à Paris, le 15 mai, date aussi très symbolique, puisque c'est la date de disparition de votre maman, mais en 1970. Là, l'action se passe en 2019. Il neige à Paris, hein, 15 mai 2019 ?
Non, il neige pas à Paris. Ah bon. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il s'agissait d'un élément, d'un ajout. C'est une prothèse, la neige, dans le livre.
Alors, j'ai pensé qu'éventuellement, parce qu'en feuilletant le dictionnaire amoureux de la mer, Yann Kefelec, il y a un article « Amour de la neige ». Vous l'avez peut-être oublié d'ailleurs, parce que bon... Et vous écrivez de la neige, vous parlez du scintillement initiatique de la neige.
Oui, je fais allusion à ce moment-là à un livre magnifique qui s'appelle « Smila » ou « L'amour de la neige » d'un écrivain norvégien dont le nom est Peter Hugg. Et c'est lui qui accorde à... D'ailleurs, je pense que je me suis inspiré de cela. C'est intéressant que vous me disiez ça, vous ayez repéré ça. Parce que, en lisant Smila ou l'amour de la neige, j'ai vu quel usage initiatique il faisait de la neige à ce moment-là dans son livre, qui à la fois traduit l'écoulement du temps, l'irréalité de choses qui sont bel et bien vraies, et le chatoiement comme ça des choses autour de soi qui les rendent impossibles à dire ou à bien percevoir. Et je ne serais pas étonné si j'ai mis de la neige en mai à Paris dans mon livre, dans mon récit, ça n'est pas avec une pensée pour Peter Hugg.
La neige, est-ce qu'elle ne contribue pas aussi, est-ce qu'elle n'est pas le témoin d'une troisième naissance aussi pour le petit frère, avec cette réconciliation avec son grand frère dans cette chambre d'hôpital? Est-ce que ça ne sera pas une troisième naissance pour lui?
Je n'ai pas l'explication. Je pense que le lecteur est là aussi pour avoir ses propres clés. Il voit bien qu'il neige. Hein. On y revient régulièrement à cette neige. Il voit bien que le grand frère ne cesse de regarder la neige comme s'il regardait la mer. Cette contemplation de quelque chose qui semble ne servir à rien et qui pourtant a du sens. Simplement, c'est le lecteur, lui, je pense qu'il ne sera pas, ça ne sera pas indifférent pour lui le fait qu'il neige. Il aura lui-même sa propre vision de la chose. D'ailleurs, un livre, c'est rien d'autre. Hein. C'est au lecteur de se lire à travers la lecture que lui propose un auteur. Hein. C'est le lecteur qui fait le boulot. Donc l'écrivain, n'a pas toujours les clés de ce qu'il a raconté dans son livre, fort heureusement.
Le jeune frère Tanguy demande à l'aîné: t'as peur de la mort? La mort, t'as peur. Yann Kefelec, vous avez peur de la mort?
Évidemment, j'ai peur de la mort. J'imagine que j'ai une peur bleue de la mort. Comme je croise les doigts, comme je suis en bonne santé en ce moment, que j'aime la vie, que je n'y pense pas à la mort, que j'ai l'impression de baigner dans l'éternité plutôt que dans un compte à rebours qui devient un peu pressant à l'âge que j'ai. Quoi. Ben, voilà, mais je ne m'en rends pas compte. Hein. Je ne me dis pas que j'arrive dans la partie étroite de l'entonnoir. Non, je suis dans l'éternité. Donc, quand vous me demandez si j'ai peur de la mort, j'ai envie de répondre non. Mais je suis absolument sûr que si vous interrogez séparément chaque pore de ma peau hurle dans son coin et dit non, je ne veux pas mourir.
Est-ce que vous avez plus peur de la vieillesse que de la mort ?
Oh, mais évidemment, la vieillesse que De Gaulle appelait un naufrage, c'est-à-dire le délabrement des forces physiques de l'individu par la vieillesse, c'est absolument abominable. Chaque jour, d'ailleurs, je fais une sorte de passage, je me passe en revue, pièce main-d'œuvre, pour savoir si je vais bien, si la vieillesse ne m'a pas atteint. Eh bien, non, je croise les doigts. Pour l'instant, je me sens en pleine forme, mais je sais qu'un tôt ou tard, elle aura gain de cause.
Et puis il y a cette paronomase, je crois que c'est le petit frère qui fait le rapprochement entre EHPAD et épave. C'est assez bien vu.
Oui, oui, ben ça,
parfois,
c'est ça,
malheureusement d'ailleurs.
Ça, c'est pas de l'ordre du récit, c'est pas un souvenir. Hein. Ça, je pense que c'est un ajout.
Yann Kefelec, merci d'avoir été avec nous à bord de Wagon Livre aujourd'hui. Je rappelle donc le titre de votre dernier texte, c'est un récit, c'est « Demain est une autre nuit », c'est aux éditions Calman Lévy. Et puis bien sûr, on peut relire tous vos anciens romans et notamment le prix Goncourt, les Noces barbares en 1985, le lire aujourd'hui. Vous l'avez relu ce texte ?
Jamais.
Vous ne relisez jamais vos romans ?
Jamais. C'est à partir du moment où j'ai mis le mot fin. Si le texte doit, quand il passe en épreuve, je le relis. Mais voilà, une fois que j'ai relu les épreuves du livre, je n'y reviens jamais.
Et est-ce que vous consacrerez un roman à l'oncle de Kervali ?
Ah non, c'est terminé.
C'est fini. La famille, c'est fini. On n'écrit plus sur la famille.
J'ai qu'une envie maintenant, c'est d'écrire un beau roman où s'il y a de ma famille dedans, personne n'en saura rien.
Merci Yann Kefelec.
Merci beaucoup.